Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc ouvrir ce deuxième panel. Nous avons trois interventions. Mathieu Carpentier, d'abord, qui revient sur un article fondateur de Bully. Julieta Mabanos, qui, elle, va intervenir en anglais. Et Pierre Brunet, que je suis très contente de voir à Nanterre aujourd'hui. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Mathieu Carpentier.
Je dois récupérer le micro.
Ah oui, je pense. Oui, mais donc c'est mieux.
Donc pour une vingtaine de minutes, je pense, quelque chose comme ça.
Oui.
Ouais, je vais enlever le masque. Ah, parfait, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Patricia. J'aimerais vivement remercier les organisateurs de cette journée. Tout d'abord pour l'avoir organisé, puis d'autre part pour m'y avoir associé. J'ai jamais parlé à Eugenio Bouligin, j'étais dans la même pièce que lui une fois, mais à un congrès de l'hiver, et j'avoue n'avoir jamais osé franchir le pas pour aller lui adresser la parole, peut-être parce que Dieu était dans la salle, je ne sais pas. En tout cas, c'est naturellement un plaisir et un honneur de lui rendre hommage. D'autant que ces travaux ont assez largement compté dans ma propre trajectoire intellectuelle. J'ai préparé un PowerPoint en anglais pour ceux d'entre nous qui ne sont pas francophones. Il y a plein de coquilles dans le PowerPoint, je vous prie d'emblée de m'en excuser, il a été réalisé un peu rapidement. Donc, j'aimerais revenir sur, en effet, un article séminal de Bouligin, Time and Validity, qui est paru pour la première fois en 1982, avant de reparaître en 91 dans une anthologie publiée avec son comparse Al-Shouron. Et il a été republié enfin, parce que le texte anglais était largement introuvable, en 2015 dans le volume réunissant les principaux articles de Bouligin chez Oxford. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais expliquer quelles sont les principales idées qui sont défendues dans cet article. Ensuite, j'indiquerai quels sont les raffinements qui peuvent ou qui ont été apportés à ces idées. Et enfin, j'essaierai de donner quelques raisons de leur importance. Vous allez voir, on va être largement dans la continuité de ce qu'a dit Michel tout à l'heure. J'essaye d'enlever juste la barre de qu'on puisse voir. Bon. Bouligin commence par distinguer trois concepts de validité. Je laisse de côté le concept de validité-efficacité, hein, qui est le quatrième concept qui était mentionné par Michel tout à l'heure. Tout d'abord, le concept de validité comme appartenance. C'est un concept qui est à la fois descriptif et relationnel, ou relatif. N est valide dès lors que N appartient au système S. Ensuite, il y a un concept de validité comme bindingness, c'est-à-dire comme force obligatoire. Et ce concept de bindingness lui-même se subdivise en deux sous-concepts. Tout d'abord, un concept normatif et absolu. Lorsqu'on dit que N est valide, on veut dire qu'en réalité, on doit obéir à ou on doit appliquer N. Et puis un concept descriptif et relationnel que Bouligin appelle applicabilité. Une norme N2 est valide si une norme N1 prescrit ou dispose que N2 doit être appliquée au cas C. Et la principale distinction qui sera opératoire ici, c'est la distinction entre appartenance et applicabilité. Et j'aimerais, peut-être pour aller à l'encontre de ce que disait Michel tout à l'heure, j'aimerais montrer que cette distinction est utile. Bien. La notion d'appartenance permet de définir l'existence d'une norme juridique au sein d'un système juridique et plus largement l'existence d'une norme au sein d'un système normatif. La promulgation, l'introduction de quelque manière que ce soit d'une norme au sein du système juridique entraîne son appartenance à ce système, tandis que l'abrogation de cette norme entraîne la fin de son appartenance. Et à partir de cela, Bouligine distingue de manière assez classique, car ces distinctions avaient déjà été formulées par Raz dans des travaux antérieurs, entre d'un côté ce qu'il appelle le système juridique et de l'autre ce qu'il appelle l'ordre juridique. Il faut bien voir que ce sont des définitions qui sont stipulatives, hein, mais qui sont néanmoins extrêmement utiles. Le système juridique, ça sera le système de l'ensemble des normes qui sont valides, c'est-à-dire qui appartiennent à un moment donné au système juridique selon les critères d'appartenance du système. Un système, c'est un ensemble de normes à un moment donné. Dès lors que l'une de ces normes est abrogée ou qu'une nouvelle norme est promulguée, on change de système, on passe d'un système à un autre. C'est-à-dire que concrètement, on change de système juridique presque tous les jours, hein, voire même toutes les minutes, selon l'ampleur territoriale que l'on donne au système juridique. C'est ce que Raz appelait les systèmes momentanés. Un ordre juridique, lui, c'est un ensemble ou une séquence de systèmes juridiques. On parlera de l'ordre juridique français, de l'ordre juridique allemand, etc., etc. Dès lors qu'une norme est créée ou abrogée, le système juridique change et un nouveau système est créé. À partir de cette définition, on peut définir pour une norme deux types de temporalité. Une temporalité externe et une temporalité interne. Ainsi, si vous prenez un système juridique, c'est-à-dire l'état des normes à un moment donné, ou l'ensemble des normes à un moment donné, eh bien, l'intervalle entre la création de ce système et son remplacement par un autre s'appellera le temps externe du système. Et par voie de conséquence, l'intervalle entre l'introduction d'une norme et son retrait, enfin, pas son retrait au sens pour administratif, mais sa suppression, dira-t-on, correspond à ce qu'on appelle le temps externe de la norme. Et le temps externe de la norme peut bien entendu correspondre à plusieurs temps externes de système juridique, puisqu'une norme, naturellement, se maintient vivace tout au long de l'existence de plusieurs systèmes juridiques. Quant au temps où la norme est ou devient applicable à un cas donné, c'est-à-dire le temps où un juge commence à avoir l'obligation d'appliquer une norme, on l'appellera le temps interne de la norme, qui définit donc l'intervalle entre le moment où une norme devient applicable et le moment où la norme cesse de l'être. Il faut bien voir que par applicabilité ici, donc par temps interne, Bouligine entend le fait pour une norme de faire l'objet d'une obligation ou d'une habilitation d'application par un juge. Dès lors qu'un juge a l'obligation ou est habilité à appliquer une norme en T, la norme sera dite applicable en T. L'applicabilité d'une norme, par conséquent, est la fonction ou dépend d'autres normes du système juridique, qu'on appellera des normes d'applicabilité. Et de fait, le temps interne et le temps externe d'une norme ne coïncident pas nécessairement. Un juge peut avoir l'obligation d'appliquer des normes qui ne sont pas partie de son système juridique de référence, c'est-à-dire du système juridique qui comprend l'ensemble des normes valides au moment où il statue, soit que la norme ait été abrogée auparavant, soit que la norme n'appartienne pas encore, ou plutôt appartienne déjà au système juridique, mais ne soit pas applicable. Donc, il y a les cas d'une part de ce que l'on appelle l'ultra-activité de la norme, et d'autre part les cas de vacatio legis, non pas de vacation, de autocorrect fâcheux ici. qu'une norme appartienne à un système juridique et donc conceptuellement indépendant de son applicabilité au sein de ce système, c'est-à-dire au sein de la temporalité de ce système. Le temps externe d'une norme est déterminé par ses critères d'appartenance, son temps interne par ses critères d'applicabilité. Ainsi, on peut voir sur le schéma ici que dans le cas de vacatio legis, c'est-à-dire lorsque la norme entre en vigueur après un certain délai de latence, eh bien, l'appartenance précède l'applicabilité. Et pour répondre à la question à quoi ça sert, eh bien, tout simplement, ça sert au fait que l'on peut abroger ou modifier la norme avant même qu'elle ne devienne applicable. Et dans les cas d'ultra-activité, c'est la chose inverse qui se produit. Le temps externe de la norme s'achève, la norme est abrogée, mais elle demeure applicable néanmoins après son abrogation. Alors, il y a un certain nombre de raffinements qui peuvent être apportés à ces idées relativement générales. Premier raffinement, c'est que le terme applicabilité a deux sens en réalité, un sens conceptuel et un sens normatif. Par applicabilité conceptuelle, on entend la subsumabilité. Lorsqu'on se demande si est-ce que telle loi est applicable à mon cas, on ne se demande pas tellement si un juge a ou non l'obligation de me l'appliquer, parce qu'on ne sait d'ailleurs pas dans quelle temporalité sera jugé mon cas si jamais il devait être justiciable. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que mon cas est subsumable sous l'antécédent de la règle? Est-ce que je suis concerné par la règle? Tandis que par applicabilité normative, on entend l'obligation d'appliquer, ou l'obligation ou le Sollen haute d'appliquer selon toutes les modalités déontiques, obligation, habilitation, voire interdiction. Il peut y avoir des normes négatives d'applicabilité. Ensuite, deuxième ambiguïté avec la théorie de Boulygine, c'est que l'applicabilité normative dépend de normes d'applicabilité qui sont adressées à des juges ou à des organes d'application de manière générale. Une norme est normativement applicable au cas C, au moment TN, si un juge a l'obligation ou l'habilitation de l'appliquer à ce cas C, à un moment TN. Donc, le problème, c'est que le temps interne de la norme ne définit pas les moments auxquels C, le cas C lui-même, doit être intervenu pour que la norme lui soit applicable. La temporalité du cas auquel la norme est applicable peut-être une fonction du temps externe de la norme, du temps interne de la norme, ou d'aucun des deux. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a des cas de figure dans lesquels un juge peut avoir l'obligation d'appliquer une norme à un cas, et où l'intervention de ce cas sur la frise chronologique n'est déterminée ni par la temporalité interne de la norme, ni par sa temporalité externe. On peut comparer, par exemple, deux cas différents, le cas de vacatio legis, sur lequel je reviens, et le cas de la rétroactivité. Dans la vacatio legis, la norme d'applicabilité va déterminer à la fois la temporalité du cas, c'est-à-dire le moment où le cas interviendra sur l'échelle temporelle, c'est-à-dire que si le cas intervient 2 minutes auparavant, eh bien, le juge, même statuant 6 mois après, ne pourra pas appliquer la règle à ce cas. Mais est-ce que si le cas intervient à partir du temps interne de la norme, eh bien, le juge pourra l'appliquer. C'est ce que je représente dans le schéma suivant. Typiquement, si vous dites que telle norme entre en vigueur au 1er janvier 2022, eh bien, cela veut dire deux choses en réalité, c'est-à-dire d'une part qu'elle ne sera applicable qu'au cas survenu après le 1er janvier 2022, et d'autre part que le juge n'aura le droit de l'appliquer ou n'aura l'obligation de l'appliquer qu'après le 1er janvier 2022. Si on compare cela avec, par exemple, la rétroactivité, dans les cas de rétroactivité, la temporalité du cas est une fonction n'est une fonction ni de la norme, ni du temps interne de la norme, ni de son temps externe. Si une norme d'applicabilité N1 dispose que N, qui entre en force au moment Tn plus 1, devient rétroactivement applicable aux cas qui sont intervenus depuis Tn, c'est-à-dire avant Tn plus 1, eh bien Tn va désigner le moment auquel les cas C1, C2, etc., auxquels N sont supposés et supposés être appliqués, eh bien, adviennent à l'existence, alors que Tn plus 1 désignera le moment à partir desquels les juges sont à même d'appliquer N à ces cas. Évidemment, le juge ne peut pas monter dans la DeLorean, ne peut pas se transporter dans le temps pour juger avant le temps interne ou externe de la norme. C'est ce qu'on peut représenter ainsi, n'est-ce pas ? Bien entendu, Tn peut être laissé tout à fait non spécifié, auquel cas ce sont des normes autres, type délai de prescription, qui permettront de déterminer la temporalité du cas. Ainsi, par exemple, si vous avez une norme rétroactive qui détermine que, je ne sais pas, moi, la norme plus douce s'appliquera au fait antérieur, eh bien, le juge aura, toute chose égale par ailleurs, l'obligation de l'appliquer dès l'entrée en vigueur de la norme, mais il l'appliquera à des cas dont la temporalité sera, elle, antérieure. Et c'est ainsi qu'on peut également contraster ce que Boulygine appelle l'ultra-activité, n'est-ce pas, où des cas sont intervenus pendant le temps externe de la norme, c'est-à-dire lorsque la norme appartenait à l'ordre juridique, mais le juge demeure obligé d'appliquer la norme à ces cas, et d'autre part ce qu'on pourrait appeler la post-activité. Je vous passe les explications avec les signes indicés et tout ça, mais la post-activité, où le juge continue d'avoir l'obligation d'appliquer la norme à des cas survenus postérieurement à l'abrogation de la norme. Ce que je veux dire par là, c'est que les normes d'applicabilité servent en réalité deux fonctions. Elles déterminent d'une part les paramètres temporels, et d'ailleurs nous le verrons pas seulement temporels, mais également spatiaux et personnels, de la norme, du cas, pardon. Elle détermine l'intervalle de temps où C doit s'être produit pour que la norme lui soit normativement applicable, c'est-à-dire pour qu'un juge ait l'obligation de la lui appliquer. Et elle détermine ensuite les paramètres temporels de la décision de l'organe d'application, c'est-à-dire précisément ce que Boulygine appelle le temps interne. Alors, il y a une manière classique de résoudre ces ambiguïtés entre paramètres du cas, paramètres de la norme. C'est un article important de José Juan Morezo et Pedro Navarro en 1997, mais je ne vais pas en parler parce que ça me prendrait trop de temps et je préfère en venir. Si vous êtes intéressé par ma critique de Morezo et Navarro, ben on en discutera si vous le souhaitez à la pause. Mais j'indique d'emblée que leur cadre permet de prendre en compte des aspects que Boulygine n'a pas pris en compte, qu'il a négligé, par exemple le rôle de la distinction entre appartenance et applicabilité, non pas au regard de la temporalité des normes, mais également au regard de leur spatialité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet tout à fait de formaliser, par exemple, ce qui a lieu dans des situations de conflit de loi en droit international privé, puisqu'on peut tout à fait comprendre qu'une norme appartenant au système juridique saoudien soit applicable au sein d'un système juridique, du système juridique français, ou plutôt de l'ordre juridique français, si une norme d'applicabilité habilite les juges à ce faire. Alors, j'en viens maintenant à ce qui est peut-être la partie la plus intéressante de mon exposé, qui porte sur l'importance, la portée de cet article. Lorsque Eric m'a proposé d'intervenir dans ce colloque, je lui ai dit de manière un peu présomptueuse que je comptais montrer que cet article de Boulygine permettait de résoudre virtuellement tous les problèmes de la philosophie du droit. Alors, non, j'ai pas mis ta réponse, ça vaut mieux pour moi. En réalité, ce que j'ai montré, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes relativement classiques, qui ne sont pas forcément résolus au moyen de cet article, mais où les outils conceptuels apportés dans cet article permettent d'apporter des éléments de réponse. Et ça permet ici, encore une fois, de répondre à la question de Michel, à quoi ça sert ? Alors, je ne savais pas que Michel parlerait de ça, donc je n'ai pas prévu de réponse spécifique, mais malgré tout, je pense fournir quelques exemples. Un exemple qui est mobilisé par Bouligine lui-même, puisque Bouligine discute du cas extrêmement célèbre des normes autoréférentielles discutées par Ross dans On Law and Justice, puis dans un article de 1969, ce qui porte sur notamment la possibilité d'amender les clauses de révision constitutionnelle, les clauses constitutionnelles de révision constitutionnelle. Pour Ross, une telle révision est impossible parce qu'elle entraînerait, vous le savez, une sorte d'impossibilité logique. Pour Bouligine, je le dis très rapidement parce que d'une part c'est connu et puis j'ai pas le temps, l'impossibilité logique est levée dès lors que les normes, la première norme de procédure et la deuxième norme de procédure appartiennent en réalité à deux systèmes juridiques différents. Autre question, autre problème dont je ne vais pas trop parler car il a très largement nourri la discussion entre Ricardo Guassini et Michel Tropper tout à l'heure, la dissolution du concept de validité qui permet de dissoudre notamment ce qu'on pourrait appeler la conflation ou la confusion kelsenienne entre validité, existence et force obligatoire et bindingness. En réalité, l'existence s'entend uniquement de la membership, c'est-à-dire de l'appartenance, l'applicabilité, permettant de sauver le concept de bindingness, de sauver le concept de force obligatoire, en faisant un concept essentiellement relatif. Quant à savoir si Kelsen avait lui-même un concept relatif ou absolu, c'est-à-dire est-ce que Bouligine a été véritablement honnête dans sa lecture de Kelsen, c'est un point sur lequel je ne me prononcerai pas. Troisièmement, c'est cette distinction qui permet de comprendre la position de Bouligine sur la nature de la règle de reconnaissance. On sait que Bouligine fait de la règle de reconnaissance une norme, plutôt une règle non normative, mais une règle conceptuelle ou définitionnelle, puisque la règle de reconnaissance détermine les critères d'appartenance qui sont un trait conceptuel d'une norme et non pas un trait normatif de la norme. Que les juges aient ou non l'obligation d'appliquer la norme n'a rien à voir avec son appartenance au système juridique. C'est pourquoi la règle de reconnaissance qui détermine l'appartenance des normes au système juridique est une règle conceptuelle ou définitionnelle et non pas une règle normative. Et c'est cette question qui a nourri notamment un débat assez chaud entre Bouligine et Juan Ruiz Manero dans les années 90. Quatrième problème que l'article de Bouligine permet de résoudre, c'est la question des conflits normatifs. Elle permet de concevoir les règles de résolution des conflits non pas comme des règles qui portent sur la validité au sens de l'appartenance des normes au sein du système, mais uniquement sur leur applicabilité, ce qui permet de comprendre par exemple que lorsque la Cour suprême renversera ses précédents Roe et Casey qui ne sont que des normes d'applicabilité, qui rendent les normes des États relatifs à l'avortement inapplicables, ces lois seront automatiquement réinstaurées sans qu'il y ait besoin d'en repasser par un processus législatif. Enfin, dernier exemple d'utilité, et j'ai été trop long, donc je m'arrêterai là. Incidemment, cette distinction entre l'appartenance et l'applicabilité permet de résoudre la très vieille querelle entre monisme et dualisme en droit international. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que Bouligine ait véritablement vu ou souhaité. La question de savoir si le droit international fait partie de l'ordre juridique interne peut être donc dissoute. On peut tout à fait affirmer que le droit international juridique est un ordre juridique distinct, donc donner raison au dualisme, tout en indiquant que ces normes peuvent être directement applicables au sein des systèmes juridiques internes sans incorporation législative, selon ce que décident les normes d'applicabilité contenues soit dans l'instrument international, soit dans les normes de l'ordre juridique interne lui-même. une intuition qui avait d'ailleurs déjà été formulée bien avant Bouligin par Michel Virali dans un article célèbre. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous prie de bien vouloir excuser ma trop grande prolixité et je vous remercie pour votre attention.
Merci Mathieu. Je vais passer la parole à Julie Tarabanos qui intervient sur the authority. And you have 20 minutes. Okay. That's my TikTok mission.
No, I will try. Okay. I will try.
Thank you.
Thank you very much. Thank you also for the invitation of this in this homage. I would have preferred not to be an homage in the sense of the death of Eugenio, but okay. Sorry for speaking in English, but my French is non-existent. So I will try also to try to speak in English. Here I have a proposal to analyze the notion of authority in Bouligin's theory of law, in connection with his notions of law and his theory of interpretation, if we can talk about the theory of interpretation in Eugenio Bouligin. On the one hand, I will try to articulate in a systematic way these three notions and their relations, and then trying to point out some perplexities that I run into trying to make this articulation. Fortunately, between Michel Tropé, Ricardo Guastini, and now Mathieu Carpentier, a bunch of things about what law is for Bouligin and what authority is for Bouligin and what interpretation in some sense is for Bouligin are already covered. I will try to briefly resume some of these things. On the one hand, for Bouligin, law can be conceived as the norm, as a legal system, and a legal system is a kind of deductive, axiomatic, normative, and redundantly legal system. This means that it's a set of legal sentences that constitute the axiomatic basis, and this set includes also all the logical consequences of this axiomatic basis. And in this sense, Bouligin, in Alcioni Bouligin, in the sense, Carlos Eugenio Bulirón, would say that legal sentences are linguistic entities, and not all of them are norms in the context of a legal system. And when we talk about consequences, we are talking about the logical consequences that are determined by using rules of inference. Then, okay, legal system, legal order, the explanation was extremely exhaustive, so I will not say anything on the likes. The only thing that I can say here is that when Bouligin, Alcioni Bouligin, talk about legal system, this can mean two things. This can mean a macro legal system, like the complete legal system, the law in itself, like for example, French law. And then it can also mean a trimmed legal system, a micro legal system, a selection, a cut within that macro legal system. This is important because when Bouligin talks about legal system, you don't really know at some points if he's talking about the macro legal system or if he's talking about the micro legal system or micro legal system. Regarding interpretation, Bouligin thinks about interpretation within this three-step method of legal dogmatics and also, for example, of judicial authorities, composed by identification of norms, systematization of norms, and then eventually change of the axiomatic basis if some logic or logical problem is found, for example, gaps or antinomies. So within this interpretation, identification of norms and interpretation are basically the same. In fact, Bouligin says that identification of norms is a more technical way to say interpretation. And here Bouligin makes the difference between, or takes the difference from von Ritt, between norm, norm formulation, and norm proposition. I will concentrate in the first two. Norm formulations are basically sentences or texts that express norms. And then norms, okay, Pierluigi Chiassoni is going to talk about a little on the conception of the of norm. For example, you have the expressive conception or the hieletical, I don't know how to say this in English, conception. Here, we will just say that a norm can be conceived as a meaningful sentence. So a sentence that has some definite and constant, constant meaning, or to be a linguistic entity reconstructed or interpreted from norm formulations that once so identified has or have an univocal and constant meaning through the course of the analysis of the interpreter, of the judge, or the dogmatic, or etc. So in this first idea, the activity of interpretation consists basically in the determination of the meaning of norm formulations. And this meaning, or the meaning of expressions, is given, according to Bulygin, by two elements. The first one being the common usage, or the common use of language, the common use of these expressions, or the intention of the author of the expression. So Bulygin basically says that to interpret can be an activity of discovering or of adscription. Discovering in the sense of that to discover the meaning of a norm formulation implies to or implicates an empirical investigation on what the common uses of language are or what is the intention of the author of the expression. And when this cannot be determined, because for example, you don't really know the intention of the author, of there is no common usage of the expression, then you have to ascribe the expression some meaning. And this is an activity of decision. So in this sense, Bulygin inscribes himself in some type of eclectic theory of interpretation. Maybe the idea that Genaro Carrió had about hard theory of interpretation, making the difference between clear or easy cases and obscure and hard cases. On the one hand, when the rules of the semantic rules of the language or the intention of the author are clear, then it's an activity of discovery, and in the other case is an activity of decision. So this considered, the activity of interpretation would consist in the determination of the meaning of norm formulations, and so the process through which the semantic rules of the language are rendered explicit, and where no semantic rule exists, or the limits of a predicate is left indeterminate by the existing ones, the existing rules, then the interpreter or the judge needs to stipulate new rules. And this is the idea of interpretation. Now going to authority, the notion of authority in particular, Bulygin has a very normativistic idea of authority. Basically, authority is competence. So authority is whoever is the addressee of a power-conferring rule. And a power-conferring rule is a norm that establishes the capacity and so the necessary conditions for the creation of legal rules or legal effects. But this is an afterthought, these legal effects in Bulygin. So in this sense, Bulygin's authority or notion of authority means that there is a norm that confers this competence or this power. It's a delegated notion because competence is always in relation with an existent or previously existent power conferring rule. And also it's a relative one because it's always relative to a certain legal system or defined in whichever way we want to define the legal system. In this sense, this holds true even when we consider the constituent power, which is the power that basically posited the first historical constitution. In this sense, the only thing we can say that the norm of competence, the power conferring rule, was not a legal one, but maybe a social one, if we can, we want to reconstruct authority from the constituent power in this way. But the important thing, I think, is within legal authorities, intra-ordinal authorities or authorities related to a legal system in particular, something was already said by Michel Tope and Ricardo Guastini. The idea is that Bulygin rejects the idea that the legislative function as pure creation and the judicial function as pure application is true. Bulygin in this sense is more like Kelsen in the sense of he thinks that all authorities at some point apply and create norms. The difference between Bulygin and Kelsen, I think that it was better explained by Michel Tropez, but basically the difference is that Bulygin doesn't really think that judicial authorities create individual norms. They create, if they create something, they create general norms. So in this framework, we can say that basically, if the competencies for creation, the creation of law at some point, the problem is what this creation of law means, and this disappeared in the discussion of the first panel. From what I can gather, Bulygin thinks that there are two necessary and sufficient conditions for a norm to be created. Or one is obviously the existence of an act of will, which is necessary but not sufficient, and then the created norm shall be considered as new. This meaning that its content shall not be identical to any other content already belonging to the legal system, nor it can be reconduced in some way as a logical consequence of some norm. And this is, here there is the point. Bulygin thinks that the difference between legal authorities is not about the types of rules that they create, but the conditions, in the sense of one creates general norms and the other one creates individual norms, but the conditions under one and the other can create these general norms. And in this sense, we can say that legislative authorities have a primary function of creation of general legal norms. They always create legal norms with general legal norms with their decision. And these norms are general, mandatory erga omnes, and created almost ex nihilo, that is, without any particular circumstance. On the other hand, we have judicial authorities whose primary function is the application of general legal norms for the resolution of the individual cases. And they exceptionally create legal norms in case of gaps and antinomies. And then these norms are general mandatory inter partem, that is, for that controversy, they are valid in the sense of of membership, they belong to the system, but they are not in force in the sense of they are not valid in the sense of applicability, the bindingness too, I think. Okay. So in this case, I think that we can say that in the case of judicial authorities, what can be considered as creation of law is not the activity of a single judge, but the convergence of multiple legal authorities in the application of the judicially created general norm, which makes this general norm to be in force, not only member of the system. Okay, within this framework, I came by three perplexities. One related to what are the elements that constitute the axiomatic basis? Are norms or norm formulations? The second one is related to this idea of authority as competence and the idea of this competence for the creation of norms, of the creation of law. What does it mean? And the third one is about this idea of authority of competence, but competence in the case of judicial authorities for what? Creating law or selecting the norm formulations for then trying to resolve the case? I will try to briefly touch on this. I'm trying. So in the first case, the thing is, how can we conceive the axiomatic basis? If we conceive the axiomatic basis as composed by text or norm formulations, I think that this idea of law being the axiomatic basis plus all the logical consequences, blah, 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 cannot hold in the sense of in which sense we can talk about consequences of texts. We can only talk about consequences of meanings at some point. If we can preserve this idea of the axiomatic basis being constituted by texts, I think that we should go for a definition of law as Jorge Rodriguez one. Law is basically constituted by this axiomatic basis, which is texts posited by, for example, a legislative authority, and then all the legal consequences are only important in the moment of trying to apply the law to an individual case. But if we can try to go on with the idea of the axiomatic basis as composed by or partially by norms, the problem is that this is not compatible with an eclectic theory of interpretation. On the one hand, because we have to have some text for the clear cases or the easy cases to be a text for the meaning, for its meaning to be discovered in these clear or easy cases. And on the other hand, this would mean to assume a biunivocal relation between norms and norm formulations. And we can say thus that when legislative authority creates or posits some norm formulation at the same time, it is creating or they are creating a norm. But this is not compatible with an eclectic theory of interpretation. You have to be a cognitivist. And I don't think that Bulygin wants to go that way. Regarding this idea of competence as the creation of norms, I find it interesting that it's not really clear. Bulygin is not really clear about what is the creation of a norm or what is to create a norm. In fact, I had to try to, and I don't know. The main questions I have in this case is the decisions of the legislative authorities, do they create norm formulations or norms? This correlates with the first point. But in particular, the decisions of judicial authorities, do they create general norms only in the cases Bulygin points out or also in other cases? I will go to the second part. I will not discuss if judges create individual norms or if individual norms can be created. This was the discussion of the first panel. But I will say something about the exceptionality of the creation. I think that this is intrinsically linked to Bulygin's idea that an act of will by itself cannot really create a norm because it has to be new in the way that I say. But if we have the idea that legislative authorities do not create norms, but norms formulations, then this exceptionality idea of the creation of general norms starts to weaken. And then I think that this is the most interesting part, and I think that in 3 minutes I will finish. I think that this idea is linked to Bulygin's theory of interpretation. And if this theory of interpretation does not hold, then this falls down in this sense. Bulygin maintains that there are clear texts when the interpreter just knows or discovers the meaning of these texts. But I think that, and this is, I think, an idea between Riccardo Guastini and Pierluigi Chiassoni, that this clarity is never taken by Bulygin to possibly meaning or being itself the product of an act of will, the act of choice to privilege the ordinary or literally meaning or the intention of the normative authorities over any other possible method of interpretation. And arguing the contrary, saying that this is like this because I think that this is not a theory of interpretation, but an ideology of interpretation, that you have or you should privilege these things. And the other thing is that I think that Buligin seems to depart from a mistaken idea of what it means that every norm formulation is ambiguous, which is the main tenet of his most fierce enemy in interpretation, which is realism, or either the radical one, Michel Troppe, either the moderate one, Riccardo Guastini, Pierluigi Chiassoni, and so on and so forth. And I think that this is mistaken, because I think that the ambiguity that Buligin has in mind is a semantic one. But what realism is saying, that this ambiguity is a pragmatic one. So this means that even if what Buligin maintains is true, and if then it's false that every norm formulation is or could be semantically ambiguous, nevertheless, this would not imply that it's equally false that every norm formulation is or could be pragmatically ambiguous. But I think that is the main tenet of realism. I think that to derive this second implication, while maintaining ourselves within the limits of a theory and not a doctrine or an ideology, I think that Buligin would have to endorse a stronger claim. That is, that it's necessary false that there always are in a certain community in a certain time, a multiplicity of possible accepted interpreted methods that could be used to interpret a norm formulation. I think that this is descriptively false. And in this sense, I think that, leaving this aside, such claim would have difficult corollaries. For Buligin. On the one hand, this method would not be useful to give an adequate account of some of the main features of legal practice, which is a practice that not really shares every feature with ordinary conversation that is often a non-cooperative one. So these features, I think that it contributes to the existence of some kind of pragmatic open texture, not semantic open texture, of norm formulations that can be mitigated but not at all eliminated. And I think that also such a claim would be at odds with Buligin's own intuitions, which recognize, as we have already seen, at least two interpretative methods that are always present: the legal and common usage meaning and the intention of the normative authority. So for time constructions, I will not go on the second, the third topic, but thank you very much for the patience.
Thank you, Julieta. Thank you for helping me in my mission. I'm bad on authority. Thank you. Et maintenant, je vais passer la parole à Pierre Brunet, Buligin versus Mill, logique de l'autorité, autorité de la logique. Je te passe le micro, Pierre, aussi.
Merci. Bien. Alors. Eh bien, merci infiniment. Merci infiniment, Patricia. Merci infiniment à mes camarades de m'avoir proposé d'intervenir dans cette journée. Évidemment, je ferai comme ils font eux-mêmes parfois, c'est-à-dire que je les remercie sans les remercier, puisque en fait, je n'aurais jamais dû accepter d'être là. Et dans ma grande naïveté, j'ai cru que je pourrais... en effet, figuré dans ce panel, dans la mesure où, en effet, l'œuvre de Buligin est faite pour des esprits sophistiqués dont je comprends chaque jour que je n'en fais pas partie. Mais le fait est que je n'ai pas résisté à la vanité qui est la mienne de penser que quand même je pourrais essayer de m'efforcer de réfléchir un tout petit peu à partir de Bouligin. Et en dépit donc de la pensée très brouillonne que je vais tenter de faire passer, je suis très heureux d'être là et d'avoir assisté à ces interventions, dans le fil desquelles je vais d'ailleurs d'une certaine manière m'inscrire, car il va être question, bien sûr, de validité de l'inférence et d'inférence de la validité. Ça n'échappera, je crois, pas à un des dieux qui figure à l'écran, ou en tout cas qui peut-être est encore derrière son écran. De même qu'on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette question, en effet, de la question de l'existence logique et de la conséquence logique et des normes comme conséquence logique, mais aussi dans la continuité de ce que disaient Mathieu et Julieta, puisque je vais peut-être aussi avoir l'occasion de revenir sur la question de l'interprétation chez Bouligin, qui est une question extrêmement étonnante, et je rejoins volontiers dès maintenant la naïveté évoquée par Ricardo au début de son intervention. Alors, j'ai proposé de parler d'un sujet qui est une tête d'épingle, et comme il est très tard, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec cette tête d'épingle. Néanmoins, cette tête d'épingle est le fruit d'un dialogue entre Bouligin et Ulysse Schmil. Ulysse Schmil est un juriste mexicain né en 1937 qui a une œuvre importante, qui a d'ailleurs aussi été juge, comme Eugenio Bouligin. Et à l'occasion d'une conférence de Schmil en 1991, publiée d'ailleurs ensuite dans Isonomia et puis dans la collection dirigée par Bouligin et son beau-frère, excusez-moi, son nom est en train de m'échapper, mais bon, par son sur logique et droit, à partir d'une conférence donc de Schmil sur logique et droit. Bouligin a fait une réponse à laquelle a ensuite répondu Schmil, et nous n'avons pas, je n'ai pas et je ne crois pas qu'il y ait de réplique ou de duplique de la part de Bouligin à la réponse de Schmil lui-même. Et donc le sujet porte sur l'articulation entre logique et droit, et surtout sur le rôle en fait de la logique dans le droit. Et à l'occasion de sa conférence, Schmil adresse une critique à Al-Churon et Bouligin, critique à laquelle Bouligin va s'efforcer de répondre, et il répondra un peu plus tard, parce que justement à l'occasion de cette conférence, le temps a manqué, sans doute qu'il y avait un déjeuner qui était prévu et qui a empêché la discussion, comme peut-être ce sera le cas aujourd'hui si je suis trop long. Je vais donc devoir faire quelque chose qui est d'abord une sorte de paraphrase de ce dialogue, et tenter d'évoquer quelques points critiques si j'y arrive. Et donc je vais tenter d'être synthétique dans un premier temps, et analytique si j'y arrive, si j'en ai la compétence. Schmil est un Kelsenien, et ce que je voudrais d'ailleurs montrer, et ce que je crois que reflète ce dialogue, c'est qu'il est plus Kelsenien que Bouligin, et peut-être beaucoup plus radical encore que Kelsen, mais il a perçu, je crois, la dimension réaliste de Kelsen, comme Pierluigi et Michel aussi ont su le mettre en avant. La question que se pose Schmil donc, dès le départ, c'est de la fonction de la logique dans le droit, et évidemment, en bon Kelsenien, il distingue la logique dans la science du droit et la logique dans le droit. Ces deux questions, évidemment, supposent que l'on clarifie le concept de droit. Je ne vais pas me lancer ici dans tout l'exposé sur le concept de droit, mais incontestablement, enfin, il est très facile de savoir que Schmil défend une vision positiviste, et donc le droit est d'abord et avant tout celui qui est, ce concept de droit est celui constitué par la science elle-même du droit, et cela le conduit à évoquer, évidemment, la fameuse distinction kelsenienne entre les ordres statiques et dynamiques, en tant que cette distinction permet aussi à Kelsen d'opposer le jus naturalisme et le positivisme. Les jus naturalistes adhèrent, pour Kelsen et pour Schmil également, à une conception, au fond, d'un ordre juridique statique où les normes sont, comme vous le savez, déduites les unes des autres. Elles ont une relation de contenu et elles sont donc susceptibles d'entrer dans une relation logique. Tandis que dans un ordre dynamique, les normes ne sont pas déduites les unes des autres, elles sont produites les unes par les autres. Et ce point a été sans doute le point capital que Kelsen a apporté avec l'aide de Merkel. Et donc, dès lors, l'acte qui consiste à poser la norme, à créer la norme, est déterminant de la norme, de sorte que, parce qu'il n'y a pas de rapport de contenu et que l'acte et qu'aucune norme ne peut exister sans un acte qui la pose, bien sûr, cette même norme ne peut être valide que si elle est donc créée par un acte humain, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de logique dans le droit. Il pourrait y avoir éventuellement de la logique dans des contenus normatifs, mais il n'y a pas de logique entre des actes. Et Schmil en arrive maintenant à la critique qu'il adressera à Altshuler et Bouligin, en montrant que Altshuler et Bouligin ont tenté de combiner statique et dynamique en proposant au fond une conception de l'ordre juridique qui est à la fois fondée sur la logique et sur l'acte de création de la norme. Mais Schmil va un petit peu plus loin encore pour montrer cette combinaison. Il va s'appuyer sur une distinction dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais elle a été très rapidement abordée à l'instant, c'est la fameuse distinction entre la conception illétique et la conception expressive des normes, donc sur l'ontologie des normes à partir de l'article très important de Altshuler et Bouligin sur cette question, et auquel, comme vous le savez, Weinberger a répondu, qui a donné lieu ensuite à une réponse aussi de Altshuler et Bouligin pour améliorer un peu leur présentation. Et c'est là qu'intervient l'objection de Schmil. Il considère que la conception expressive des normes, et qui est donc d'abord et avant tout une ontologie de la norme, la conception expressive, au fond, s'inscrit ou se traduit une conception dynamique de l'ordre juridique, tandis que la conception illétique correspondrait à la conception statique de l'ordre juridique. Et pour lui, dès lors que l'on adhère à une conception expressive des normes et donc au fond à une conception dynamique de l'ordre juridique, on ne peut plus introduire cette idée qu'il y aurait un rapport logique entre des normes et que donc la logique est susceptible de s'appliquer au droit. En d'autres termes, dans la conception expressive et dynamique, expressive des normes et dynamique de l'ordre juridique, dans cette conception donc, les normes existent parce qu'il y a un acte de commandement dont le contenu sont les normes en question. Et la difficulté de la présentation d'Altshuler et Bouligin, c'est qu'ils admettent néanmoins que des normes peuvent être déduites des normes qui sont elles-mêmes posées, de sorte qu'ils en viennent à admettre, combinant conception expressive et conception illétique, conception statique et conception dynamique, ils en viennent à admettre qu'il y a des normes qui existent en fait implicitement, qui sont la conséquence logique des normes posées. Et ce faisant, ils réintroduisent de la logique alors qu'il n'y avait aucune raison d'en poser. Donc, de sorte que la critique de Schmil revient à dire qu'au fond, on doit choisir. Soit les normes sont créées par des actes humains et elles ne sont donc évidemment pas déduites les unes des autres et le système est vraiment dynamique. Et il n'y a donc aucune norme qui ne peut être la conséquence logique d'une autre, ou en tout cas, il ne peut y avoir que des conséquences logiques de contenu normatif, mais ça ne donne pas des normes valides. Ou bien on admet qu'il y a en effet des normes qui sont déduites logiquement d'autres normes, et alors on admet en réalité que la validité des normes ne vient pas des actes humains et de leur création, mais de cette existence logique et de cette conséquence logique. Comme vous l'avez compris, donc Schmil ne croit pas du tout à la logique des normes Et il va même très loin dans son intervention, dans la fin de sa conférence, en expliquant que les efforts des logiciens n'ont jamais fait disparaître ce fait que les normes sont les normes créées sont valides parce qu'elles sont créées selon des procédures, certes en vertu d'autres normes, mais des normes qui sont des normes d'habilitation, des normes de compétences, comme le dirait une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait sa thèse là-dessus, Guillaume Tussaud, et elles ne peuvent pas être déduites d'autres normes. Et Schmil développe alors une critique très sévère de l'illusion de rationalité dans le droit et du droit, en affirmant que d'ailleurs, si on considère que le droit peut être un objet de connaissance, qu'il est rationnel et logique, ou régi par des lois logiques, alors au fond, on ruine d'ailleurs toute tentative de sociologie du droit, laquelle devient superflue, mais surtout on réitère d'une certaine manière cette idée rationaliste qui est celle des jus naturalistes. Et Schmil va très loin, renvoyant Aturon et Bouligin finalement à une position rationaliste, en considérant d'ailleurs que d'une certaine manière, il y a une forme de métaphysique. Auparavant, j'ai glissé sur ce point, mais il considère que cette idée que des normes puissent être la conséquence logique d'autres normes, en réalité, est une fiction. Et c'est évidemment ce qui va provoquer une réplique sévère de Bouligin lui-même dans un texte dont il existe une version dans Isonomia et également une version dans Doxa, je crois. Alors, maintenant, venons-en à la réponse de Bouligin. Bouligin va d'abord commencer par contester l'association que fait Schmil à partir de la distinction entre l'ontologie, la conception illéthique et expressive, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de coïncidence entre l'opposition illéthique expressive en matière d'ontologie des normes et l'opposition entre statique et dynamique. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Certes, dans la conception illéthique, une norme individuelle est censée dériver directement d'une norme générale, tandis que dans la conception expressive, elle dérive implicitement d'une norme générale, mais dans les deux conceptions, il y a la possibilité d'introduire justement une dérivation logique, une inférence logique. Et en réalité, l'opposition entre statique et dynamique n'a rien à voir avec l'ontologie, précisément parce que dans cette conception expressive, on peut très bien avoir également une inférence logique. Donc, les normes, pour la conception illéthique, les normes sont des significations de certaines expressions linguistiques. Dans la conception expressive, elles sont le résultat d'actes linguistiques, mais cela n'entraîne pas de conséquences en termes d'organisation des systèmes. Et puis, il va utiliser deux arguments contre Schmil, l'un tiré d'un petit exemple très significatif. Il imagine une situation dans laquelle un maître d'école pose une règle selon laquelle tous les élèves doivent se lever quand arrive le directeur. Et puis arrive alors le directeur et tous les élèves se lèvent, sauf l'un qui s'appelle Ulysse, comme par hasard. Et quand on demande à Ulysse pourquoi il ne s'est pas levé, Ulysse répond que le maître n'a jamais dit à Ulysse de se lever. Il a seulement, en effet, dit que tous les élèves doivent se lever. Alors, évidemment, Bouligin concède qu'en effet, le maître n'a pas explicitement dit que Ulysse devait se lever, mais toute personne qui comprend un tant soit peu le langage ordinaire comprend en effet que cette norme générale selon laquelle tous les élèves doivent se lever, eh bien, contient elle-même la norme selon laquelle Ulysse devait se lever. Ne pas comprendre cela, c'est tout simplement ne pas comprendre le fonctionnement du langage ordinaire. Et il va ensuite donner un autre exemple dont il se sert dans une interview avec Gennaro Carrillo d'ailleurs, qui est l'exemple du code pénal argentin, si je ne me trompe pas, qui prévoit que celui qui commet un meurtre doit être puni d'une peine de prison allant de 8 à 25 ans. Et il suppose ensuite que X a tué Y et que sur la base de cette norme générale, on peut déduire, dit-il, que X doit être puni d'une peine de 8 à 25 ans de prison, et que cette norme individuelle est valide parce qu'elle appartient à l'ordre juridique, bien qu'ensuite il donne une explication très savante et très intelligente sur la question de savoir à qui s'adresse cette norme. Mais je laisse ce point dans un premier temps. Schmil va répondre évidemment à la critique de Bouligine, un peu piqué manifestement, et en expliquant que selon lui, je vais laisser de côté la discussion sur la correspondance entre la thèse de l'ontologie et la thèse de l'organisation des ordres juridiques, mais il reprend l'exemple, je vais repartir de l'exemple que prend Bouligine sur le maître d'école et Ulysse, et reprenant cet exemple, Schmil essaye de montrer, enfin affirme plutôt, que la pure déduction logique de la présence des propositions telles que Ulysse doit se lever, ou dans le syllogisme théorique classique que nous connaissons tous, la proposition selon laquelle Socrate serait immortel, à partir d'un même énoncé, cette pure déduction doit être distinguée de l'acte linguistique consistant à énoncer d'une part que tous les hommes sont mortels et ensuite que Socrate est mortel. Pour Bouligine, il y a quelque chose d'absurde. Dès lors qu'on a admis ces deux prémices, on accepte nécessairement la conclusion pour des raisons logiques. Mais pour Schmil, poser les prémices est un acte de langage, et cet acte de langage ne permet pas à lui seul d'inférer, encore une fois, la conclusion à laquelle on peut parvenir. Comme il y insiste, les relations entre les propositions sont des relations logiques, mais celles entre les actes sont des relations psychologiques. Et donc, tout le problème est de savoir, en effet, au fond, si le droit est d'abord et avant tout fait de propositions logiques ou d'actes de langage. Et il rejettera donc, évidemment, l'exemple tiré du maître d'école et de Ulysse, ne se levant pas, en considérant que le maître a certes ordonné que tous les élèves doivent se lever à l'arrivée du directeur, mais c'est une proposition normative en tant que telle, mais non encore une norme, et elle est en fait la norme sur laquelle Ulysse doit se lever, pardon, je parle trop vite, est éventuellement inférée du contenu normatif de la norme générale, mais elle ne peut pas être inférée de l'acte de poser la norme elle-même. Alors, j'avance un peu. La conclusion donc à laquelle Schmil parvient, c'est que, en réalité, on doit systématiquement et impérativement distinguer entre les fameux contenus normatifs et l'acte de création des normes. Il n'y a pas, j'insiste sur ce point, et je reprends justement ici le propos de Schmil, il n'y a pas de relation de déductibilité entre les actes créateurs des normes, et il cite évidemment Kelsen dans l'article droit et logique, très connu, l'acte par lequel le juge condamne justement Schulz, le voleur à 5 ans de prison, n'éduit de rien, c'est un acte de volonté, et si Bouligine avait raison, alors ce serait en fait un acte de connaissance et non pas un acte de volonté. Alors j'en viens maintenant j'ai été un peu long, et à ce que nous enseigne ce dialogue que j'ai tenté de restituer et sans doute peut-être pas aussi clairement que j'aurais dû le faire. D'abord, très intéressant de voir que on trouve entre deux Kelséniens deux positions très différentes. Alors, certes, Bouligine n'est pas un Kelsénien orthodoxe, si je puis dire, au sens où c'est un reconstructeur kelsénien. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à mon sens, alors même que d'ailleurs Schmil se réfère dans un premier temps à la théorie générale de l'État de Kelsen et non pas aux textes les plus tardifs, Schmil me semble avoir pris le parti le plus réaliste chez Kelsen, Tandis que Bouligine semble camper sur une position extrêmement et fortement normativiste. On y voit évidemment une opposition radicale entre deux conceptions évidemment, du jugement et de l'interprétation. Et bien sûr, on a une opposition ici qui porte sur la question de la validité de l'inférence et l'inférence de la validité. Je crois que Schmil et Bouligine ne parlent pas exactement de la même chose. Il me semble que Bouligine s'intéresse d'abord et avant tout à l'inférence valide, donc en fait à la validité de l'inférence logique, et qu'en effet, comme il le dit très très bien lorsqu'il parle de l'interprétation, il voit d'abord et avant tout l'interprétation dans la question de la justification de la norme, laquelle justification est toujours perçue chez lui comme une démarche purement logique. Il lui arrive en effet à plusieurs reprises d'expliquer qu'une décision judiciaire n'est justifiable selon le droit en vigueur que lorsqu'elle est la conséquence logique d'une ou plusieurs normes toutes générales et de la description des faits. Il lui arrive en effet de reconnaître que le terme même de décision peut être ambigu, que cela peut désigner un acte ou le contenu d'un acte, donc il admet cette distinction sur laquelle insiste Schmil. Il admet également qu'aucun acte ne peut être logiquement déduit au terme d'un raisonnement logique, mais il ajoute quasiment toujours que cet acte d'édiction de la norme n'est justifiable que et seulement si et seulement si, je le cite, si son contenu, c'est-à-dire la norme individuelle elle-même, est logiquement déductible de la norme générale et des faits d'espèce. Autrement dit, il adopte une conception qu'on pourrait considérer très forte de la justification juridique, tandis que Schmil, au contraire, est beaucoup plus dans une critique ou une approche réaliste de la justification, conscient probablement de ce que, bien sûr, la logique peut dans certains cas être un excellent argument interprétatif, mais qu'elle n'est absolument pas le seul moyen de justifier une norme, et qu'il y a toute une série de normes qui, au fond, n'ont qu'une apparence de justification logique, mais qui ne sont absolument pas en relation logique, mais leur validité, elle, ne dépend pas de la logique, mais dépend entièrement du droit et au fond de l'autorité qui a posé la norme. Et l'on a, je crois, ici, une démarche de Schmil très, très critique et peut-être en effet beaucoup plus fondée sur une approche de sociologie empirique du droit que sur une approche évidemment logique. Autrement dit, Bouligine a sans doute raison sur le plan des principes en insistant sur la dimension logique et l'importance de la logique, mais probablement que Schmil a beaucoup plus raison sur le plan empirique et sur la description la plus empirique possible du droit. Autrement dit, Eugenio Bouligine me semble toujours rester un tout petit peu juste milieu dans son approche et de l'interprétation et de l'analyse linguistique du langage, du droit, tandis que Schmil ici me semble être beaucoup plus subversif et sceptique. Merci.
Merci Pierre. La session des questions est ouverte et nous avons à peu près 20 minutes pour discuter, une demi-heure pour discuter de ces trois interventions. Donc je vais. Entre vous, vous avez une question.
Pour Pierre.
Alors, je te passe le micro. Je tourne.
Merci beaucoup, Pierre. Merci à Julieta aussi pour ces exposés passionnants. Alors, je ne connaissais pas la controverse Schmil-Bouligine, j'avoue. Mais ça renvoie à la question importante de la... en réalité, de la clôture déductive des systèmes normatifs. Et ma question est-ce qu'en réalité, mais tu l'as un peu dit à la fin, est-ce qu'en réalité, il ne parle pas tout à fait de la même chose, dans la mesure où j'ai l'impression que chez Bouligine, la clôture normative, c'est une exigence logique avant tout, c'est-à-dire que pour qu'on ait un système normatif, eh bien, il faut que les conséquences logiques des normes du système soient elles-mêmes valides, sinon on n'aurait que des antinomies normatives, en fait. On n'aurait que des conflits normatifs, c'est-à-dire que si la norme selon laquelle tous les élèves doivent se lever est valide, mais que la norme sur laquelle Ulysse n'est pas valide, eh bien, appartiennent. Alors, les antinomies ne sont pas impossibles, mais j'ai l'impression que c'est l'une des conséquences nécessaires de l'absence de clôture déductive. Mais est-ce qu'en définitive, Boulegui ne devrait pas mordre la balle, comme on dit en bon français, et accepter qu'en effet, il y a toute une série d'antinomies possibles. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la défaisabilité des règles. Il y a une norme possible selon laquelle les ambulances sont interdites dans le parc, une autre norme possible selon laquelle les ambulances sont admise dans le parc, eh bien, il revient au juge de déterminer lui-même quelle est la norme valide, du moins dans son système de référence. Parce que j'ai l'impression qu'en effet, Schmil s'intéresse beaucoup plus davantage à quelque chose qui est différent, qui est tout simplement à la question du raisonnement juridique. Et qu'en effet, les raisons qui interviennent dans le raisonnement juridique, j'ai pas lu le texte de Schmil, donc je raconte bien n'importe quoi, mais les raisons qui pèsent dans le raisonnement juridique sont en réalité des raisons variées, qui ne sont pas nécessairement déduites de critères logiques d'inférence déductive. Donc, du coup, est-ce qu'on n'a pas chez Boulegui une théorie du droit et chez Schmil une théorie du raisonnement juridique qui ne sont pas nécessairement congruentes, d'où le décalage entre les deux thèses.
Oui, alors on prend une deuxième question. Alors, Ricardo Guassini, allez-y.
Non, je voulais simplement vous signaler un problème et peut-être même une solution concernant la distinction entre conception hilétique et conception expressive. J'ai écrit un truc sur ce thème il y a quelques années, publié en espagnol et en anglais. Apparemment, ce que disent Carlos Alciurone et Eugenio Boulegui à ce sujet, c'est une tentative de répondre à ce que von Wright appelle le problème ontologique des normes. Mais en réalité, le soi-disant problème ontologique des normes est un double problème, c'est-à-dire il consiste dans deux problèmes absolument différents dans lesquels il faut absolument distinguer pour des raisons logiques. Un problème, c'est le problème de la genèse, on dit comme ça, genèse, de la naissance des normes. L'autre problème est le problème du statut ontologique au sens strict. Alors, la conception expressive répond, à mon sens, au premier problème, pas au second, au premier problème, c'est-à-dire la conception expressive tente d'expliquer comment une norme parvient à l'existence factuelle ou à l'existence juridique. Bon, ça, c'est un autre problème. Tandis que la conception hilétique répond au problème, mais que sorte d'objet est une norme? Là, il y a des problèmes concernant la théorie de l'interprétation. Prima facie, une norme n'est que énoncé, une norme formulation, comme disait il y a quelques minutes Julieta. Mais d'autre part, dans la pratique juridique, une non-formulation n'a aucune importance pratique, sauf qu'à travers de l'interprétation qu'on lui donne les juristes et surtout les juges, plus en général, les organes de l'application. Les statuts logiques, ontologiques d'une signification et les résultats d'un acte interprétatif. La position d'une norme est un acte linguistique, disons, de promulgation. L'existence d'une norme est la conséquence d'un acte interprétatif. Donc, d'un acte linguistique différent. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Pierre, tu veux répondre ?
Oui, volontiers. Alors, j'ai un peu extrapolé, comme ça m'arrive, à partir de Schmitt. En fait, Schmitt ne fournit pas dans son texte une analyse du raisonnement, en effet, mais il me semble qu'il y a tout un... En fait, cette théorie du raisonnement est très largement présupposée. C'est même d'ailleurs assez frustrant parce qu'il ne convoque pas en tant que telle une théorie du raisonnement. Mais je crois qu'on peut déduire logiquement de la critique qu'il fait de Bouligine, cette idée que, bien évidemment, le raisonnement fait appel à beaucoup d'autres types de justifications que simplement une justification purement logique. Et il y a une... Je crois que vraiment l'opposition... Plus on la lit, plus on mesure, je crois, en effet, qu'il y a une... Au fond, Schmitt a tendance à pousser Bouligine du côté d'une approche vraiment purement logique et statique, finalement, du droit, et d'une conception du droit qui, en effet, repose aussi sur cette idée que une conception de la science du droit selon laquelle la logique serait en quelque sorte un rempart contre l'arbitraire, ce qui, je crois, est très, très puissant chez Bouligine, est un des sous-textes, disons, de la plupart de ses travaux. Tandis que je pense que Schmitt, je vois Schmitt, disons, en sceptique, qui, au fond, ne croit même pas que la logique puisse être un rempart contre l'arbitraire, au sens où, oui, la logique peut nous dire, en effet, que la justification est logiquement faible, mais elle restera juridiquement valide, et que ce n'est évidemment pas la logique qui confère à cette norme sa validité. Je crois que c'est surtout là qu'intervient la grande différence.
Et d'où vient cette croyance en la logique ?
Chez Bouligine ?
Oui.
Il faut lui demander.
Oui, je ne sais pas là.
D'où vient la croyance dans la force de la logique,
oui.
Je crois. D'une certaine manière, c'est quand même intimement lié à une tradition positiviste. Les positivistes ont quand même toujours admis que le droit pouvait se fonder sur ou prétendre à une forme de rationalité si, en effet, il se construit sur la base d'inférences logiques. C'est de ce point de vue-là une tradition en fait très classique chez les positivistes, de même que cette conception de la science du droit comme une forme de systématisation et axiomatisation est en réalité très, très courante chez les positivistes classiques. Bouligine, de ce point de vue-là, en dépit de toutes les productions et toutes les créations conceptuelles et tout l'arsenal conceptuel qu'il nous fournit, reste profondément un positiviste très classique et qui s'est, comme le disait Ricardo, toujours beaucoup méfié du réalisme, a toujours été très, très hostile à une approche réaliste, en tant que précisément, au fond, elle ouvre la porte à un affaiblissement de l'analyse logique pour admettre, dans certains cas, une approche en termes d'arguments convaincants, ce qui n'est pas du tout ce que Bouligine accepterait. Voilà, c'est ma réponse, mais il y en a sûrement d'autres.
Il y a Lionel qui veut poser une question. Viens, Lionel, parce que sinon, on ne va pas t'entendre.
Et vous poser une question par rapport à ce que Pierre disait.
Attends, je vais vous poser une question.
passer.
En fait, ma question, c'était un écho à la question de ce matin, enfin, de tout à l'heure.
Et en fait... Et en fait, Pierre, tu as parlé, et ça faisait écho aussi à une discussion qu'on avait durant la pause café de logique comme rempart contre l'arbitraire. Est-ce que c'était un contexte doctrinal où la logique permettait précisément, je ne sais pas, moi, dans la doctrine argentine ou peut-être sud-américaine plus globalement, de répondre à quelque chose ou des arguments doctrinaux en faveur de l'arbitraire. C'est-à-dire, d'ailleurs, je reviens un peu sur mon truc, mais sur mon dada, mais je suis un peu étonné de tout ce manque de contextualisation de la pensée de Bouligine, en fait. Je ne peux pas imaginer qu'il ait fait son truc dans son coin comme un geek. Donc, je voudrais un peu avoir un peu de clarification, monsieur, si possible.
Je vais essayer de dire deux mots, mais je pense que nos amis argentins seraient plus.
I can say something if I understood right.
Go ahead. Political.
I know. So at one point, the idea, for example, from normative systems was more within the idea of that in that moment, deontic logic was the thing. So they were trying to find something to develop deontic logic. And they said, okay, but we have a fantastic system here, a legal system. So we will try to do so. But in a more profound way, I think that logic at some point had this, this role of trying to do something that is not really substantive in the sense of the military people are not going to come and take away us, which was in some sense the way in which the seminar originated, as Eric Tell said at the beginning, with the idea of, okay, if something can be taught, if something can be thought about, it can be thought in terms of logic, in the sense of we can try to analyze if this follows. It's not about the trying to analyze if the premises are true, this is another discourse, but if the arguments are valid, if the thing is like that. So I think that in some sense, the idea of trying to not only to teach, but also to discuss and also develop logic, it's in some sense and in some contexts, for example, Argentina in the last century, an act of rebellion. And it was, in some sense. It was not only, for example, in the context of this seminar in the University of Buenos Aires, but also was in the context of the creation of SADAF, which is the Argentina Society for Philosophical Analysis. I don't remember exactly the things. In this sense, obviously, I think that we can discuss whether logic can really be applied to this. But I think that that was the main idea. And also the idea, I think that maybe a pragmatic idea of we need to do something that it's so maybe innocuous in some sense, but in a very superficial sense for the people to say, okay, these people is, they are doing this, whatever. But at the same time, they were, for example, in the seminar reading the Open Society of Popper. So they were not only doing logical analysis. But thank you for the question. It was really interesting. Do you have a follow-up? Yeah, sure. I'm so sorry.
J'insiste sur ça parce que dans la même période, mm-hmm. une période que je travaille en Afrique aussi, il y a une vraie contestation du positivisme. Et ceux qui sont positivistes et qui mettent la logique sur la table sont ceux qui essayent de répondre en fait à des arguments. C'est au Nigeria, hein, de la dictature nigérienne. En fait, mm-hmm. c'est intéressant en fait. C'est pas un truc. Je demande pas du contextuel pour du contextuel, mais en fait, c'est du contextuel qui permet aussi de saisir la logique comme espace en fait de production d'une pensée un peu alternative, mm-hmm. quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était juste ça. Je suis frappé par la ressemblance.
Thank you. So sorry. Thank you for this because it was I didn't know, and I think that it's a very interesting thing. I think that it can be a pattern in some sense, especially in countries in which people are resisting, for example, dictatorships or some kind of totalitarianism.
It's okay.
Thank you very much.
Et Thomas, tu voulais poser une question, viens ici. Si, sinon on ne te voit pas, on ne t'entend pas.
C'est sur la distinction statique, dynamique. Est-ce que j'ai bien compris pour, ils ont l'air d'envisager ça, Bouligine et Schfield, comme deux conceptions exclusives. Or, moi, il m'a toujours semblé que c'était deux points de vue sur un même objet, mais deux points de vue qui se complètent plutôt que de s'exclure. C'est-à-dire, si tous les élèves doivent se lever, ça implique qu'Ulysse doit se lever, ou pour parler de la norme primaire plutôt que la norme secondaire, si l'élève qui ne se lève pas doit être exclu, ça implique que si Ulysse ne se lève pas, il doit être exclu. Mais évidemment, tant que, et ça c'est le point de vue dynamique, tant que l'organe compétent n'a pas exclu Ulysse, bah l'exclusion d'Ulysse n'est pas valide. Voilà ma
question. Ta question, c'est...
Ouais. Et ta question, Thomas ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question elle-même.
Est-ce que pour eux, ces deux points de vue exclusifs, le droit est quelque chose de dynamique ou quelque chose de... Est-ce qu'on peut avoir un point de vue statique sur le droit positif ou on réserve ça au droit naturel ?
Dans la discussion, pardon. Là aussi, je parle sous le contrôle des logiciens qui sont dans la salle. Et qui maîtrise cette distinction mieux que moi encore. Mais dans la discussion entre Schmil et Bouligine, la question de savoir si ces deux principes d'organisation d'ordre normatif est exclusive ou peut éventuellement être combinée n'est pas abordée frontalement. Bouligine rejette, si tu veux, c'est compliqué parce que la discussion intervient à l'occasion d'une reconstruction par Schmil à la fois de la distinction sur l'ontologie des normes qu'il croise avec la distinction kelsenienne statique-dynamique. Mais Bouligine, lui, s'évertue à montrer qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, mais pour autant, il ne prend pas position sur la question de savoir si on peut avoir un ordre normatif à la fois statique et dynamique, ou seulement statique ou seulement dynamique. Probablement, d'ailleurs, qu'il... Il admet très volontiers qu'il peut y avoir une combinaison de statique et dynamique, mais ça, je laisse la réponse, disons, autorisée à ceux qui ont l'autorité. Et ce qui est aussi paradoxal, en effet, c'est que Schmil va utiliser, quand il utilise Kelsen, quand il se réfère à Kelsen sur cette distinction, en fait, une lecture qui est, elle, exclusive, au sens où, comme on le sait, au moins dans la théorie pure et peut-être dans la théorie générale des normes, je n'ai plus vérifié, Kelsen insiste sur le fait que les ordres juridiques sont principalement dynamiques. Schmil y fait une très très brève allusion, mais quand il reprend l'adverbe principalement, c'est en fait pour l'entendre dans un sens exclusif en réalité. Et sans doute qu'il pourrait admettre, encore une fois, que bien sûr, l'inférence logique peut, dans certains cas, intervenir dans le cadre, au fond, d'une interprétation ou dans un jeu interprétatif. Mais selon lui, en aucun cas, on ne peut finalement retenir cet élément-là comme un élément ou un critère définitionnel d'un ordre normatif juridique. Selon lui, je crois, l'ordre normatif juridique est d'abord, et en fait, exclusivement, principalement dans ce sens-là, dynamique. Voilà, je crois que ce serait la réponse que Schmil ferait, mais on pourrait inviter Ulysse Schmil un de ces jours.
Nous avons encore le temps pour une ou deux questions. Ou Romain. Ou observations. Ou. Je crois qu'il a oublié parce que j'ai.
I think that his hand was. Yeah. Okay. Now he's gone. Yeah.
D'autres questions?
Oui.
Donc, nous reprenons à 14h30. Bon appétit et merci. Merci pour ces interventions.